On va lire les versets 5 à 11. C'est notre verset d'introduction aujourd'hui sur une doctrine fondamentale de la Christologie. La Christologie, c'est l'étude de qui est Jésus-Christ. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la semaine dernière, on parlait du Père. Cette semaine, on parle du Fils. Devinez de quoi qu'on va parler la semaine prochaine. Et vous êtes perspicaces. On va parler du baptême de Jean-Baptiste. Non, c'est pas vrai. On va parler du Saint-Esprit. Alors, on est dans Philippiens 2. Et il vous dit une doctrine fondamentale. Je vais vous l'identifier après qu'on ait lu. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, on vient t'adorer, toi qui es notre Seigneur, toi qui as un nom qui est au-dessus de tout nom. Et oui, Seigneur, on confesse ton beau nom. Toi, notre Rédempteur, le seul Sauveur, le vrai Dieu qui est devenu homme. Merci, Seigneur, qu'on peut te considérer aujourd'hui dans ta parole. On te demande que tu puisses être notre enseignant. Et Seigneur, que toutes ces distractions, que les forces des ténèbres, Seigneur, on réclame notre position à ta droite dans les lieux célestes, que toute opposition à ce que tu veux faire maintenant, que ça soit empêché, que tu ne le permettes pas, Seigneur, que ton peuple soit captif de ta parole et de ce que tu as à nous dire chacun et que tu fasses ton œuvre dans chacune de nos vies et dans cette église, Seigneur. On s'attend à toi, on regarde à toi. Merci que tu es au milieu de nous. C'est toi le vrai enseignant ce matin, le vrai prédicateur. On te remercie pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est quoi la doctrine fondamentale de Christologie qu'on regarde avec ce verset-là? En un mot, kénosis, ça c'est en grec. En un mot français, au verset 7, dépouillé. Ce mot-là, dépouillé, ou des fois même, je l'ai déjà vu en français, là, peut-être dans plus les milieux théologiques, là, qui disent la kénosis, comme les gens vont dire la parousie pour parler de l'enlèvement, là. Ça signifie littéralement, quand on comprend ici l'idée de dépouiller, c'est pas qu'il a perdu quelque chose, c'est comme s'il a mis de côté. Ici, l'idée, c'est que Jésus étant Dieu éternel, s'est dépouillé ou a mis de côté certains de ses attributs divins. Mais sans jamais ne rien perdre de son essence divine. Jésus est toujours et va toujours rester Dieu. Mais en devenant un homme, il a volontairement limité. Il s'est lui-même volontairement limité dans certains de ses attributs divins. OK? En devenant un homme, mais sans jamais perdre sa nature, parce qu'il est immuable, n'est-ce pas? C'est ce qu'on regarde dans le mois de août. Notre Dieu est immuable. Et donc, ce dépouillement, cette kénosis, c'est l'ultime expression de son humilité. D'ailleurs, dans le contexte, ça nous parle d'humilité. Quand ça dit « ayez les mêmes sentiments qu'étant Jésus-Christ », ça nous dit « ayez ces sentiments humbles », de ne pas se regarder comme étant supérieur aux autres, mais voir comme les autres, comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et ça, selon Paul, ici dans Philippiens 2, c'est la solution à tous les querelles. Pensez-y, quand on est querelle, c'est parce qu'on pense que nous, on mérite mieux, on pense que nous, on est meilleur, on pense ci, puis ça, qui n'est pas selon l'humilité. Et donc ici, Jésus est le standard, la mesure ultime de la vraie humilité avec ce dépouillement. Et ça nous affecte parce que si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes uni à lui. OK? Ce que lui est, nous affecte directement. OK? Et donc, étant unis en lui, en vertu de notre union avec lui, on peut vivre, nous aussi, ce dépouillement. Pas dans la même mesure parfaite comme Christ, mais se dépouiller de notre orgueil, de notre amour propre, de nos propres ambitions. OK? Et ce qu'on va faire aujourd'hui pour arriver à ça, parce que on va considérer l'humilité que Jésus, que le Seigneur immuable nous donne, Jésus notre Seigneur immuable qui nous donne, on va considérer ça à la lumière, non seulement ici, bon, c'est notre texte de départ, mais on va aller voir deux passages clés qui nous parlent du fait que Jésus ne change pas, OK? C'est ce qu'on fait dans le mois d'août. En tout cas, une partie du mois d'août, on a commencé avec d'autres choses. Mais là, on regarde le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comment le Dieu trinitaire, les trois personnes de la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, les trois, la Bible nous montre comment ils sont. Il y a des textes précis qui nous disent qu'ils ne changent pas. OK? On va aller voir deux textes en ce qui concerne le Fils aujourd'hui. Et c'est de ces textes, où est-ce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, il y a des textes que... On comprend pas tout de suite c'est quoi, comme on dit en bon québécois, on comprend pas c'est quoi le rapport. On dirait que le texte est hors contexte. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, j'avais déjà vu ça, mais des fois on est là, puis hein, comment qu'il fit avec le reste du contexte de verset-là? Vous allez voir, il y a une raison pour ça. Quand ça arrive, c'est pas parce qu'il y a une erreur dans la Bible, c'est pas parce que c'est simplement parce que Dieu veut notre attention pour qu'on s'arrête pour vraiment ce qu'il veut nous communiquer là. Je vous donne un exemple, ça arrivait souvent... Dans les évangiles, des fois, il y a des gens qui posent des questions à Jésus. Puis, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais des fois, on se dit, coudon, y a-tu répondu à la question? OK, un exemple classique de ça. Il y a des Grecs, à un moment donné, dans Jean 12, qui demandent, nous voudrions voir Jésus. Puis, Jésus, au lieu de dire, ah oui, je suis là, bonjour, je me présente. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est quoi le rapport? On veut voir Jésus, puis il répond, mon heure n'est pas encore venue. Mais quand on comprend, quand Jésus, ici, dit ça, savez-vous? C'est la réponse exacte, parce que quand Jésus parle de son nom, évidemment, il parle de la croix. Il dit, nous voudrions voir Jésus, pour voir Jésus dans ce qu'il est, dans toute son essence, dans toute sa gloire. C'est la croix. La croix nous révèle qui Jésus est. Fait que quand Jésus répond ça, c'est exactement la réponse. Mais voyez-vous, c'est pas comme évident du premier coup, mais c'est un peu la même chose avec ce qu'on voit aujourd'hui, avec les deux textes vers lesquels on se dirige dans un instant. Et c'est ce qui est merveilleux quand Dieu fait ça, c'est parce que souvent c'est des joyaux de sa parole. Dieu enterre ses plus beaux trésors. Et des fois c'est pas aussi évident comme ça, d'une lecture rapide ou juste en lisant comme ça. Quand on s'arrête, oh là on se rend compte qu'il y a quelque chose. Et c'est propre de Dieu parce que Dieu aime qu'on le cherche. Et on le trouve quand on cherche. Et comment qu'il est encore plus précieux quand, qu'après l'avoir cherché, on le trouve? C'est vrai dans sa parole, c'est vrai dans la prière, c'est vrai dans toutes nos vies. Donc, on va regarder deux domaines où est-ce que on peut trouver cette humilité que notre Seigneur immuable donne. Premièrement, le premier texte qu'on va voir, c'est Hébreux, chapitre 13. Et on va lire plus qu'un verset, on va s'arrêter sur un verset en particulier, mais pour avoir le contexte, on va lire les versets 1 à 9. Hébreux 13. On commence au verset 1. Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Voyez-vous comment que ça, on dirait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, on dirait que ça sort de nulle part. Il donne des exhortations, souvenez-vous, puis là, boum, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que c'est juste moi qui ai cette impression-là, mais c'est comme une série d'exhortations, puis là, tiens, il a comme décidé, j'aimerais vous rappeler que toute Écriture est inspirée de Dieu et que le Saint-Esprit a placé ce verset-là à cet endroit-là pour une raison précise. Je vais vous le décortiquer, je pense que ça va devenir plus clair pour tout le monde. D'abord, je vous dis le domaine, j'ai dit qu'on allait voir deux domaines où est-ce que Dieu nous donne son humilité. D'abord, dans le domaine des pensées, c'est ce qu'on va voir ici avec les versets qu'on vient de lire. Je vous explique le contexte. L'Épître aux Hébreux a été écrit à une église dans un temps de persécution. Parce que pour les Hébreux, qui avaient la foi en Jésus-Christ, ça voulait dire d'être mis au banc de la société. Ça voulait dire d'être rejeté des synagogues. Ça voulait dire d'être rejeté de leur famille. Des fois même, vous savez qu'il y avait même une tradition où est-ce que lorsque quelqu'un se détournait de la foi de ses pères, ok, donc ironiquement de la foi d'Abraham, mais bon, pour ceux qui ne comprenaient pas que la foi d'Abraham, c'est la même, c'est la continuité pour ceux qui croient en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la postérité d'Abraham, mais pour les Juifs incrédules, qui voyaient ça comme une apostasie, il y avait même la famille, puis ça se fait encore de nos jours dans certains milieux juifs, une cérémonie mortuaire, où est-ce que la personne était vivante, mais on célébrait ses funérailles, en voulant dire, t'es mort pour moi, t'es pu... t'existes plus dans ma vie. Et c'est dans ce contexte-là ici que l'Épître aux Hébreux est écrite. Un contexte de persécution, d'ostracisation. C'était pas facile pour les chrétiens à qui cette lettre était écrite. Et certains, parce qu'on le voit dans le chapitre 6, dans le chapitre 10, certains avaient le goût d'abandonner, certains avaient abandonné. Donc, c'était vraiment des temps difficiles pour ceux à qui c'était écrit. Leur foi était grandement éprouvée. Même on apprend aussi que certains s'étaient fait enlever leur bien et tout ça. Tout ça à cause qu'ils étaient chrétiens, à cause qu'ils professaient Christ. Maintenant, dans les versets qu'on vient de lire, d'abord les versets 1 à 6 qu'on a lus se divisent en deux sections. Okay? Ça nous parle de l'éthique. D'abord, l'éthique ecclésiastique, c'est-à-dire en tant qu'Église, c'est quoi l'éthique ou l'étiquette? C'est l'éthique de l'amour. On persévère dans cet amour fraternel. Puis, une des façons par lesquelles cet amour-là se montre, c'est par l'hospitalité, verset 2. Et c'était pas, ah, OK, j'invite quelqu'un à souper. L'idée, c'était aussi pour protéger quelqu'un justement qui avait été mis de côté. Puis tout ça, on le prenait chez nous pour qu'il soit en sécurité, qu'il puisse avoir un endroit à manger parce qu'il avait perdu sa job, perdu sa famille, il avait tout perdu. C'était pas juste d'hospitalité, ah, viens souper chez nous. C'était pour vraiment même une question de survie dans ce contexte volatile. Puis au verset 3, quand ça parle des prisonniers puis de ceux qui sont maltraités, bien, évidemment, c'est dans ce contexte-là, des gens à cause de leur foi. Okay? Donc, quand ça parle un peu, c'est de secourir les affligés ou de visiter les veuves dans leurs afflictions, comme ça dit dans Jacques. C'est vraiment ça ici l'idée. Donc, ça, c'est l'éthique ecclésiastique. On prend soin les uns des autres, on veille les uns sur les autres. Et c'était beaucoup plus que juste, comme nous, on peut l'imaginer, c'était d'une réalité prenante. Je veux dire, le besoin était là, puis c'était la réalité de la situation dans laquelle il était. Ensuite, dans les versets 4 à 6, qu'on a lu aussi, c'est l'éthique personnelle. Okay? Après avoir passé de parler de l'Église, il va plus spécifique à l'éthique personnelle avec deux éléments fondamentaux de notre vie personnelle, le mariage au verset 4, qui doit être gardé pur, et l'argent. Se garder de l'amour de l'argent et tous les deux doivent être considérés dans la bonne perspective biblique. Hein, au verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. » Et donc, tout ça, c'est des exhortations qui sont données, qui sont très importantes pour la petite église, bien fragile et petite, qui les recevait. Ça les protégeait contre eux-mêmes, contre le découragement, contre peut-être la tentation de tout abandonner. Et même de s'en aller sur la route de l'autodestruction en suivant ce type de pensée-là qui amène à ce type d'action-là. Et donc, ça, c'est des premières considérations. Et dans les versets 7 à 9, qu'on a aussi lu, puis même on aurait pu attendre jusqu'au verset 16, mais ça met l'accent, après avoir parlé d'éthique, OK, de prendre soin les uns des autres, tout ça, tu sais, en tant qu'Église, en tant que personne. Après, celui qui écrit Hébreu met l'accent sur ce qui dure, sur ce qui dure versus ce qui ne dure pas, OK? Et sur la persévérance spirituelle pour cette petite Église, parce que c'était encore là un grand besoin, OK? Et dans les versets 7 à 8, ça nous parle du besoin d'une mémoire qui dure. Souvenez-vous, hein, voyez-vous, souvenez-vous de vos conducteurs. Et donc, une mémoire qui dure par rapport à ceux-là qui sont passés avant nous, qui nous ont légué un héritage spirituel, qui nous ont aidé à grandir dans notre foi, et se souvenir de la fin de leur vie. Certains sont morts à cause qu'ils étaient chrétiens, et donc, c'est important de se souvenir de ça, d'avoir une mémoire qui dure. Mais regardez verset 8, et là ça nous aide à comprendre, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui prennent des notes, vous pouvez écrire à côté dans votre Bible ou dans vos notes, 2 Timothée 2:8. Non seulement vous vous souvenez de nos conducteurs, mais ici l'idée c'est souvenez-vous surtout de Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et vraiment ici, l'idée c'est ça, c'est bien de se souvenir de nos conducteurs, ceux qui ont été avant nous autres, puis qu'on veut imiter leur foi, mais il faut surtout se souvenir de Jésus-Christ parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. C'est une grande source de stabilité spirituelle dans un monde qui change et qui est instable. Et au verset 9, non seulement on a besoin d'une mémoire qui dure, mais on a aussi besoin d'une compréhension biblique qui dure, parce que on peut être égaré, hein, au verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. Et ça, c'est dans le contexte de ceux qui voulaient revenir sous la loi. Okay? Quand ça parle des aliments, c'est toute la question de la loi diététique et revenir sous la loi de Moïse, comme les judaïsants de l'époque. OK? Donc, une compréhension qui dure, qui peut être facilement égarée par les faux enseignements et qui ne nous amène que à s'éloigner de Dieu. Et en passant, ce qui était le plus dangereux, c'était pas les aliments en tant que tels. L'idée, c'était notre accès à Dieu. J'ai pas accès à Dieu parce que je fais ci, je fais ça, ou je fais pas ci, je fais pas ça, parce que je mange tel aliment ou que j'en mange pas. On a accès à Dieu comment? C'est quoi que la Bible nous dit? Par la foi. Pas par notre performance ou ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, mais par la foi. Maintenant, à la lumière de ce contexte que j'ai pris le temps de vous expliquer, on comprend que le verset clé, le point d'ancrage de tout ce qu'on a vu, c'est le verset 8. Dans un temps où est-ce que fallait se rappeler l'éthique d'une église, l'éthique personnelle, qu'on ne doit pas laisser aller nos standards moraux, puis qu'on doit se souvenir, on doit se concentrer sur ce qui dure. Le fait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement, c'est ça l'assurance sur laquelle je peux faire reposer mes pensées. Jésus ne change pas. D'ailleurs, on chante « Jésus ne change pas ». C'est ça? Ouais, c'est ça l'air, hein? Puis même, on a chanté tantôt un autre qui avait rapport sur le fait que Jésus changeait pas. Comprenez, le fait que Jésus est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement, quand ça l'occupe mes pensées, quand ça devient l'objet de ma concentration, c'est ma stabilité spirituelle. OK? Je vous donne une explication, puis après ça, je vais vous l'illustrer. L'idée que Jésus est l'objet de mes pensées, c'est... On a vu ça mercredi pour ceux qui étaient là. Le fait que je vis en union avec lui. Le fait que mon identité, c'est Jésus-Christ. Si je vis dans ma chair, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est ce que je suis maintenant. Mon identité, c'est pas ce qui m'arrive, c'est pas ce que j'ai, c'est pas ce que j'ai pas. C'est pas les choses qui m'arrivent ou les choses qui m'arrivent pas. Mon identité ne change pas, elle est toujours la même. Si vous êtes ici, vous êtes un enfant de Dieu, votre identité, c'est Jésus-Christ. Mes amis, il y a une grande sécurité là-dedans, il y a une paix, il y a une stabilité. Pourquoi? Parce que tout le reste peut changer. Il y a bien des affaires qui changent dans la vie, on le sait, hein? Dans les derniers mois, y a-t-il quelques petites affaires qui ont changé peut-être par hasard? Pas mal, hein? Notre monde au complet change. C'est-à-dire, en fait, même le monde parle du grand changement du monde. Le Great Reset. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ah, on recharge, on ne va pas perdre une crise. On a besoin de changer les choses. Ah, je suis content que mon Dieu ne change pas. Je peux toujours aller à lui. Puis, parce que l'homme, qu'est-ce que la Bible nous dit? Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Et dans les narines duquel il y a un souffle. Mais Dieu ne change pas. Et ça, mes amis, ça doit être l'objet de mes pensées. J'avais appris, je pense que c'est la semaine passée que je vous ai récité. Daniel 2, 22, quelqu'un connaît ce verset-là? Si vous ne connaissez pas, apprenez-le, mes amis, c'est tellement merveilleux. Tu sais, des fois, on se demande comment les choses, des fois, notre propre cœur, ça nous joue des tours, et notre cœur est trompeur au-dessus de toute chose. Mais la Bible nous dit dans Daniel 2, 22, que Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et ça vient à quelque chose que, dernièrement, qu'on se rend compte, cette crise, cette pandémie, les événements qui nous arrivent, il y a un effet révélateur là-dedans. Dieu se sert de ça pour révéler bien des choses. On peut dire, je savais pas que nos leaders étaient de même. Ça, Dieu le révèle à travers ça. Je savais pas que j'avais cette tendance-là à ci ou à ça. OK? Il y a un effet révélateur à ça. Mais, juste un que je veux souligner, puis je vais utiliser, même pour mon prochain point, là, pousser un peu l'illustration, mais juste ce que je vais amener comme élément ici pour illustrer. Dans nos vies, dans nos églises, la crise actuelle révèle quelque chose de profond et de caché par rapport à la sanctification dans nos vies. Où est-ce qu'on va chercher notre appui, notre refuge? Où est-ce qu'on va... est-ce qu'on grandit à travers ça? Mes amis, il y a quelque chose que Dieu révèle avec ça. Est-ce que je suis en train de... Est-ce que ma vie est caractérisé par la sanctification, par les œuvres ou par la foi? Je crois que d'une façon unique, cette crise révèle ces choses. Je vous donne un exemple. Vous savez c'est quoi la sanctification par les œuvres? L'idée que, pour être un bon chrétien, il faut que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Ça veut dire que tu es un bon chrétien parce que tu as tout coché les petites cases, donc tu es un bon chrétien. Tu te conformes à ce qu'on s'attend de toi comme chrétien. Vous savez que c'est une fausse doctrine, vous savez que c'est pas biblique. Il y en a qui vont dire que c'est du légalisme, oui, c'est une forme de légalisme. Non, ce qui fait que je suis un bon chrétien, là, c'est pas moi. La seule chose qui est bonne en moi, c'est Christ qui vit en moi. Le reste, là, je viens de dire, mon cœur est trompeur au-dessus de tout. Puis Paul, il dit, je sais qu'en moi n'habite rien de bon. Quelque chose de même, dans Romains 7, OK? Donc, la sanctification... C'est pas d'essayer de faire ça ou de faire... Non, la sanctification, c'est Christ et ma vie. La sanctification, c'est Christ qui vit en moi. Puis quand ça, c'est le point de départ, quand ça, c'est l'objet de ma foi, quand Christ est l'objet de ma foi, tout le reste va en découler. Ce qu'on a fait comme erreur avec la sanctification par les œuvres, on a mis la charrue avant les bœufs. On a dit, si tu fais ça, t'es un bon chrétien. C'est du coup, en faisant ça, on peut passer complètement à côté de Jésus-Christ. C'est ça la tragédie. T'as tout appris quoi faire, mais tu connais pas ton Dieu. T'as pas appris à te confier en lui. T'as pas fait de lui ton refuge. ton soutien, ta vie dans toutes les circonstances. Tu as juste appris comment on fait. Et ça, mes amis, c'est une fausse doctrine. C'est une hérésie. C'est destructeur. Et je crois que la crise dans laquelle on est révèle ça. Et voici, je crois, une des manières dans laquelle ça s'est révélé. Vous savez, si pour moi, tout ce que j'ai appris comme relation avec Dieu, c'est des choses à faire ou à ne pas faire. OK? Pour moi, Dieu, c'est OK, des choses que, tu sais, il faut que je lise ma Bible le matin. Puis j'ai assez prêché là-dessus, vous savez que, tu sais, j'espère que vous lisez vos Bibles le matin, mais l'idée ici, on parle du motif. Tu veux-tu entendre la voix de Dieu quand tu lis ta Bible le matin? Est-ce que tu as hâte d'entendre ce que Dieu a à te dire? Puis quand tu pries, c'est pas parce que, ah, il faut que je prie, puis, ah, j'ai un temps de prière. Non, il faut que tu parles à Dieu. T'en as besoin, puis ton cœur crie déjà à Dieu, puis dit, Dieu, il faut qu'on s'assoie. OK? C'est ça ici la différence entre le « il faut » versus « je veux ». Et écoutez bien, je pense que la crise a révélé réellement où est notre refuge, où est notre espoir, où est-ce qu'on s'appuie. Parce que, vous savez, si tout ce que je me suis habitué dans ma relation avec Dieu, c'est de suivre des règles, des choses à faire et pas faire, transposer ça dans la situation, après, évidemment, je vais suivre des règles puis je vais faire tout ce que je suis posé. La question, c'est pas la règle est-tu bonne. La question, c'est est-ce que je me suis au moins arrêté à essayer de dire « Dieu, toi, qu'est-ce que tu dis? » C'est ça que je dis qui est l'aspect révélateur. C'est pas l'idée de juste... C'est facile de se réfugier et je vous dis... Je ne sais pas si vous le voyez comme je le vois, mais je pense que ça... C'est évident, comme ça peut devenir un refuge de dire, ben oui, j'ai juste sans faire affaire, mais sans se poser de questions. Dieu, qu'est-ce que tu penses de ça? Ou Dieu, dans ta parole, qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Je pense qu'il y a un grand problème spirituel qui est révélé à travers tout ça et qui ne prend pas racine dans l'humilité, mais plutôt dans l'incrédulité, et ça a le rapport avec nos pensées. Pourquoi? Parce que, en fond, l'idée, c'est la dépendance. Je pense que les temps dans lesquels nous sommes révèlent où est notre dépendance. Parce que si j'ai tout le temps dépendu de ce que j'ai besoin de faire puis pas faire, ben là, je continue à faire. Mais si vraiment je dépends de Dieu puis je dis « Dieu, au secours! » Avez-vous eu ces moments où est-ce que vraiment, c'est comme... Vous avez perdu tout repère et dit « Dieu, il faut vraiment que tu me dises c'est quoi que tu penses et c'est quoi ta pensée là-dedans. » Puis parce que moi, je suis confus là-dedans. Là. Moi, mes amis, j'ai eu des moments de même, des fois la nuit même, j'étais là. Puis pour ça que je pense que je vous l'avais partagé, mais ça m'a tellement fait du bien, la fameuse lettre de MacArthur, parce que Dieu, c'est comme justement, Dieu a répondu à cette prière-là en montrant dans sa parole « Ah, il y a une base à ce que tu recherches. » Je pense que je l'avais déjà dit, j'ai essayé de communiquer pas mal tout croche, ce qu'eux autres ont mis tout clair dans une lettre, puis avec les références bibliques. Mais l'idée, c'est que pour moi, j'ai vu ça, puis j'ai eu de la misère à dormir ce soir-là, parce que j'étais trop content. Merci Dieu, c'est la réponse à laquelle je m'attendais. Parce, c'était ça la question de mon cœur. Dieu, c'est quoi tu penses là-dedans? Parce que je sais que dans la Bible, ça dit... Il faut honorer nos autorités. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu un temps où est-ce que les apôtres ont dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais on est où là-dedans? Là? Puis, comprenez-vous? C'est pas juste en se disant, ah, ben, j'ai juste ça à faire, puis la corde, ça. Non, il faut entendre la voix de notre berger pour ça. Il faut qu'on ait une relation avec Dieu où est-ce que Dieu nous parle, nous interpelle. Puis des fois, avec des, même c'est pas farfelu, mais des fois, c'est un peu drôle. Notre frère, vous irez voir Alejandro, vous demanderez comment Dieu a dirigé pour une maison. Dans sa parole. Savez-vous quoi? L'idée, l'essence, c'est ça. C'est pas comme, ah, Dieu écrit Jérémie 32 pour ceux qui cherchent une maison, vous allez répondre ça. Non, mais Dieu est capable de servir de Jérémie 32 pour nous répondre à une question quand on se demande, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On achète-tu une maison quand c'est la fin du monde? C'est à peu près ça qu'il se demandait, là. Puis Dieu a répondu. C'est ça l'idée que je veux dire. C'est à quoi je suis habitué de me confier? Est-ce que j'ai tout... déjà aligné, puis j'ai pas besoin de demander à Dieu. C'est ça que je veux dire que Dieu révèle avec ça. Parce que malheureusement, c'est ce que je constate, chez bien des gens, parce que t'as pas besoin de te poser de questions. Tu fais juste que t'es supposé... Non, on est supposé de poser la question à Dieu. Dieu, c'est quoi tu penses? C'est quoi qui est dans ton cœur avec ça? Je veux t'honorer. Je veux pas juste avoir la réponse, la pad answer. Je veux pas juste avoir la réponse automatique que tout le monde donne. Je veux avoir ta pensée. D'ailleurs, Dieu nous a donné la pensée de Christ. Et savez-vous, si on n'arrive pas à cette façon de penser-là, Dieu, c'est quoi qui est dans ton cœur? Dieu, c'est quoi ta façon de penser? Inévitablement, ça va nous amener à nous détourner dans notre conduite spirituelle. Et ça m'amène au deuxième point, le deuxième domaine, où est-ce qu'on trouve l'humilité que notre Seigneur donne, l'humilité dans notre conduite. Et là, on s'en va à la fin de notre Bible. Apocalypse, chapitre 22. L'humilité dans la conduite, dans la pensée. Parce que quand on demande à Dieu, Dieu, c'est quoi tu penses, c'est quoi? Dans le fond, on est en train de dire, Dieu, moi je ne sais pas. Puis on montre qu'on est dépouillé, puis qu'on n'a pas de réponse en nous-mêmes. Parce que pensez-y, si j'ai toute la réponse, même si c'est la bonne réponse chrétienne, si je n'ai pas besoin de Dieu, c'est parce que, même si c'est bon, c'est quand même de l'orgueil. Parce que j'ai pas besoin de consulter Dieu pour ça. Voyez-vous le piège là-dedans? Tu ne fais pas quelque chose de mauvais. Mais la façon d'y arriver, c'est pas bon parce que t'as pas besoin de Dieu. Tu fais toute la formule chrétienne, mais sans le Christ qui est supposé te diriger pour le faire. OK? Maintenant, comment ça se transpose dans notre conduite? On est dans Apocalypse 22. On va lire à partir du verset 10. C'est bien bizarre. OK. Il me dit... Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Wow! Il a dit ça pour le 2000 ans en passant. Là. Il n'a pas écrit ça en matin. Mais il est proche. S'il était proche de 2000 ans, imaginez-vous comment il est proche en ce moment. Car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. En passant, ça c'est notre verset qui nous parle que Dieu ne change pas. Parce que si le commencement et la fin, il ne change pas, ok? C'est une expression qui nous parle du fait qu'il a toujours été, il ne change pas. C'est toutes des expressions qui nous parlent de début puis de fin, puis Dieu ne change pas. Verset 14. « Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc ici, on peut se demander encore là, qu'est-ce que ça fait là en plein milieu, où est-ce qu'il parle de rétribution, puis tout ça, puis heureux celui qui lave, ceux qui lavent leur robe. Pourquoi qu'il dit ça en plein milieu, je suis l'alpha et l'oméga? Ça, en passant, c'est je suis l'A et le Z, ok? Parce que c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Mais pour nous, ça serait comme je suis du A à Z, ok? C'est ça l'idée, là. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Alpha, A, la première. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. En fait, ça nous parle ici du fait que Jésus-Christ ici, dont il est question, c'est lui qui parle, il s'identifie au verset 16, il ne change pas. Comme il était au début, il est encore à la fin. Et c'est ici... dans le contexte de la conduite, parce que ça nous parle, hein? Puis d'ailleurs, c'est un des passages un peu, on se gratte un peu la tête aussi quand on dit ça. Comment ça, ça dit que celui qui était juste soit encore injuste? Ça veut dire que Dieu, il encourage les gens à être injustes? On peut se poser la question, mais avant de vous expliquer c'est quoi ici que ça veut dire le verset 10, c'est que dans cette idée ici de... pratiquer la justice, notre conduite. Encore là, celui qui ne change pas, celui qui au début était d'une façon, celui qui à la fin est encore de la même façon. Jésus-Christ ne change pas, ça veut dire qu'on peut toujours se fier sur lui, dépendre de lui quand vient le temps de marcher avec lui. Dieu a toujours la même disposition envers ceux qui se confient en lui. Et juste pour faire un lien avec ce dont on vient de parler voilà un instant, par rapport à l'effet révélateur de la crise, puis pour le mettre en lien justement avec le verset qui dit que celui qui est injuste continue à être injuste, ok? Ici, c'est le sens de sceller sa destinée, ok? Sceller t'es de cette façon-là, tu te repens pas, t'es en train de sceller ta destinée d'une façon positive ou négative. Ça forme, ça solidifie ce que t'es habitué de faire. Maintenant, je vais amener ce point-là par rapport, je vous l'amène, je pense que ça va vous aider à comprendre. Dieu envoie des choses dans notre vie. Puis Dieu nous appelle toujours à la repentance par rapport au mal qu'on peut faire, par rapport aux égarements qu'on peut avoir. Et Dieu est patient. Dieu est, je veux dire, il y a de la miséricorde, mais on sait que dans le livre d'Apocalypse, ça nous parle de la fin, de la consommation de toutes choses. Puis à un moment donné, ça devient, il n'y a plus de temps pour changer. Fait que c'est ça l'idée. À un moment donné, si tu restes à t'endurcir et à choisir les mêmes voies, tu scelles ta destinée. Puis là, il est trop tard. C'est dans ce sens-là qu'il parle ici. Puis ça ne va pas changer. Dieu est toujours le même. Du commencement à la fin. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il va le moissonner aussi. Et donc, l'idée ici, c'est que... Et je crois ici, on a une réflexion à avoir. Qu'est-ce qu'on a toujours été habitué comme façon de marcher avec Dieu? Je pense que comme mouvement, comme chrétien, non seulement nous autres, notre église, nos églises sœurs, est-ce qu'on n'est pas en train de sceller notre destinée dans la sanctification par les œuvres? Dieu, dans sa bonté, veut nous réveiller de là, de notre torpeur, parce que c'est ça qui arrive. Mes amis, je regarde autour de nous des églises, puis ça prend un John MacArthur qui n'est pas de notre milieu, pour lui qui se tient pour ce qui est droit, puis je ne suis pas en train de l'idolâtrer, puis il a ses défauts, puis il a ses problèmes, mais il fait ce qui est correct. Il se tient pour Jésus-Christ, puis il a dit, l'église de Jésus-Christ est soumise à Jésus-Christ. Puis il sort de la Bible pour l'appuyer. Ce que je veux dire avec ça, c'est que si nous, on est habitué, on fait ce qu'on est supposé de faire, on coche nos cases une après l'autre, puis qu'on n'est pas habitué d'écouter Dieu, puis qu'on suit le train de ce monde, puis on répète ce que le monde dit, on n'est pas en train de sceller notre destinée, nous autres aussi. Mes amis, il y a quelque chose de vraiment sobre à considérer là-dedans. Gardez maintenant avec moi Apocalypse chapitre 3, parce que je crois que cette... Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec mon interprétation des lettres des sept églises. Je crois que les sept églises nous parlent des sept époques de l'histoire de l'Église, en commençant de l'Église apostolique avec la lettre aux Éphésiens, puis maintenant, à la toute fin, nous sommes dans l'époque de l'Odyssée. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, on peut quand même avoir l'application que je vais aller chercher dans ici, la lettre à l'Église de l'Odyssée. Je crois qu'on est dans l'époque laodicéenne, de la tiédeur, de l'apostasie. Pour nos églises, regardez, il arrive toutes ces choses-là. C'est une minorité qui élève la voix puis qui dit « Hey, notre chef, c'est Jésus-Christ. » N'est-ce pas un signe des temps? Moi, en tout cas, ça me fait vraiment poser la question puis je me dis « C'est pas parce que Jésus a changé puis que maintenant, il faut qu'on soit dans le vent puis tendance. » Non, c'est nous qui a changé. Jésus n'a pas changé. Regardez verset 14. Écrit à l'ange de l'Église Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est une autre révélation sur qui Jésus est. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça, c'est la pensée de la sanctification par les œuvres. Je sais tout quoi faire, un bon petit chrétien qui sait tout cocher les bonnes cases. C'est ça la pensée que je suis en train de vous parler ce matin, là, de la sanctification par les œuvres. C'est comme ça que ça pense, un chrétien comme ça. C'est comme ça qu'on pense quand on tombe dans ce piège-là. En disant, ah non, ça, c'est pas pour nous autres. Oui, mes amis, c'est à ça qu'on ressemble. Puis si on reste là, on va sceller notre destinée comme ça, mes amis. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, ça, c'est la réelle condition dans laquelle on est, mes amis. On n'a rien si on n'a pas Jésus-Christ. Puis même si on a toutes les richesses et facilités, si on n'a pas les trésors de Christ, ça vaut rien même si on aurait le monde entier. C'est ça que ça nous dit ici. Je te conseille, ah Dieu est tellement bon, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. En fait, je crois que dans le contexte ici, c'est une église qui est apostasie au point de même pas connaître le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Parce que regardez, on continue. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je pense que l'Église en tant que telle était apostasie, que le Seigneur n'était même plus au milieu d'eux autres. Ah, il y en a peut-être dans l'Église qui peuvent être sauvés. C'est pour ça qu'il parle. Il y a encore l'invitation à la repentance et tout ça, mais je crois que c'est une Église qui est caractérisée par une apostasie telle qu'ils n'ont même plus la foi qui sauve. Mais j'aime le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi. Je pense que le Seigneur, à travers ce qu'on vit, nous révèle l'état spirituel pour nous individuellement puis nos églises. Puis, notre façon de penser, puis notre conduite le révèle. Et c'est du quoi? Savez-vous quoi? Avant, on pouvait peut-être se convaincre du contraire, mais là, Dieu révèle les choses telles qu'elles sont. Tu sais, les crises ont cet effet révélateur. On peut se convaincre avant que tout était bien. Pour prendre Jérémie, si on avait de la misère à marcher avant quand c'était paisible, comment qu'on va faire pour courir? Qu'est-ce qu'on va faire sur les rives impétueuses du Jourdain? Dieu est en train de révéler ça. Et où votre foi? Et où la réalité de la vie de Christ? Parce que là, mes amis, ici, là, on l'a encore très facile, là, mais on parle du Venezuela, on parle de Melbourne, puis tout ça, c'est rendu pas mal plus dur. Puis est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce que notre foi en Christ est réelle? Est-ce que on n'est pas en train de... Mes amis... ça va pas passer avec la sanctification par les œuvres, là. Avec la sincérité de la chair, aussi belle puisse-t-elle paraître, ça va pas passer. C'est la foi en Jésus-Christ qui peut nous faire passer à travers les choses que Dieu a pour nous autres. Une foi ferme dans Christ qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est le commencement et la fin, c'est lui vraiment qui peut nous faire passer au travers. Pour ne pas tomber dans ce piège, cette tromperie de la sanctification de par les œuvres, puis manquer Jésus-Christ, comme je le disais tantôt, il faut demander au Seigneur qu'il révèle, qu'il nous révèle, qu'il révèle à nos familles, qu'il révèle à notre Église, la réalité de notre foi. Pas l'apparence, pas ce que nous on pense, pas ce que les autres, mais la réalité de notre foi. Mes amis, c'est pas un jeu. On s'amuse pas à répéter. C'est pas une répétition de la pièce de théâtre chrétienne. La foi chrétienne, c'est la réalité de nos vies, de où est-ce que je me confie. C'est ça, la foi, c'est ça qu'on vit, mes amis. Est-ce que la réalité de ma foi, c'est la vérité englobante de ma vie? Est-ce que c'est à travers ça que toute ma vie, je la considère, puis... Ou est-ce que c'est juste une théorie des choses que je fais le dimanche matin ou quand je me lève le matin, je dis, mais est-ce que vraiment la foi, c'est ce qui définit ma vie? Est-ce que c'est ce qui caractérise ma vie? Savez-vous comment faire pour le savoir? Puis vous avez l'occasion de le savoir même en ce moment. On parle de crise puis tout ça. Où est-ce que instinctivement, vers qui ou vers quoi vous vous tournez?
instinctivement pour un refuge, pour la paix, pour vous calmer quand les pensées s'agitent au-dedans de vous autres? Où est-ce que vous vous tournez? Elle a la réponse de la réalité de votre foi. OK, on peut chanceler, des fois on a... Mais ultimement, là, quand tu te réveilles la nuit et que tu as peur, même les enfants, ils s'élèvent vers où le cri de ton cœur? Est-ce que tu te lèves pour aller lire, pour aller faire quelque chose, pour te changer les idées? Ou est-ce que tu cries à Dieu? Comment ces derniers temps, c'est incroyable, j'ai eu des temps, le Seigneur m'appelle. Moi, c'est pas en plein milieu de la nuit, souvent c'est tôt le matin, dans 4 heures. Là, je sais que le Seigneur, dans sa main, c'est arrivé même cette nuit, ce matin. Il m'appelle à prier. Est-ce que dans ces moments-là, où des fois il arrive des choses, OK, il est où ton refuge? Il est où ton secours? C'est ça la réalité de ta foi. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu apprends et tu es OK, là, je fais ci, je fais ça. Non. C'est un refuge. C'est ta sécurité. C'est ta paix dans la tempête. C'est ce qui te calme quand t'as peur. C'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelqu'un vers qui tu te tournes. La chrétienté, c'est pas des choses à faire, c'est quelqu'un à connaître, à découvrir, à apprécier, dans lequel on se réjouit, puis qu'on loue pour sa bonté pour des gens aussi instables que nous autres. C'est ça la vie chrétienne. C'est le connaître lui, le chef et le consommateur de notre foi. C'est ça que Dieu est en train de révéler en ce moment. Puis malheureusement, souvent, c'est à cause d'un évangile qui a été présenté, un évangile bonbon, puis tout ça, des gens qui professent Christ, qui ont tout appris quoi faire, mais il n'y a pas la réalité de cette foi-là. Peut-être que vous êtes ici ce matin, vous avez tout appris quoi dire, quoi faire, comme enfant, comme adulte. Mais quand la crise vient et frappe ton refuge, tu ne sais plus où aller, tu peux tourner vers quelqu'un, tu peux tourner vers quelque chose. Mais si tu ne tournes pas vers celui qui est le soutien de ton âme, le refuge de ta vie, tu dois te poser la question vraiment, est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ? Regardez comment Dieu met ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Hein, des fois, c'est pas facile, ça. Venez à moi. Ou, tantôt, le Seigneur m'a dirigé à lire ça pendant qu'on priait. Le Seigneur m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux malheureux, pour la délivrance aux captifs, aux prisonniers, la délivrance, OK? Ou pour l'amener dans les mots de Philippiens, chapitre 4. Lorsqu'il arrive des choses, est-ce que je fais connaître à Dieu mes besoins par des prières, des supplications, puis même avec des actions de grâce? Seigneur, je comprends pas, mais je te dis quand même merci. Puis que là, de façon surnaturelle, c'est pas normal ça que ça arrive humainement parlant, mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, elle garde mon cœur, la partie la plus intime de mon être, est gardée par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça ne s'explique pas humainement, mais Dieu fait ça. Ça, c'est la signature de Dieu dans la vie de quelqu'un. Puis je ne dis pas qu'on doit avoir ça de façon parfaite, on bronche tout de différentes manières, mais quand on est un chrétien de Dieu, un enfant de Dieu, c'est là qu'on se réfugie, c'est ça qu'on trouve de plus précieux, c'est ça que notre âme recherche, on soupire après ça. Amen? C'est ça qu'un enfant de Dieu a. C'est ça la réalité de notre foi en Jésus-Christ. Et si c'est pas ça que tu as, peut-être parce que tu ne le connais pas, ou il y a trop de bruit dans ton âme, ou pour le mettre dans les mots avec lesquels on a commencé, au lieu d'être dépouillé, tu es trop plein de toi-même. Trop plein de tes pensées, trop plein de tes préoccupations, trop plein de tes 1, 2, 3, 4, toutes sortes d'affaires qu'il peut avoir. Et par conséquent, tu ne peux pas recevoir l'humilité, la grâce, la paix que le Seigneur donne. Maintenant, comprenons bien, Dieu ne change pas, il est toujours disposé à donner la vie. Puis pas à la petite miette, en abondance, à ceux qui se confient en lui. Venez aux sources vives, hein? Aux sources d'eau vive. Au lieu d'aller se creuser des cisternes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, on peut aller à la source qui ne tarit jamais. Avec Dieu, on a tout en abondance.
Vous savez, une affaire aussi qu'on voit,
il y a un danger en ce moment où est-ce que, puis on a tout le temps ce danger-là, mais je pense encore plus, puis là on parle, on dirait qu'on se fait préparer, on va sur un vaccin ou bien se faire reconfiner, deuxième vague, tout ça. C'est dans l'air, c'est les nouvelles, on se fait déjà bombarder ça. La question qu'il faut qu'on se pose ce matin, c'est d'où est ma sécurité? C'est qui est-ce qui tient ma vie? Parce que la rédemption du monde ne vient pas de Dieu. C'est de l'auto-rédemption. Donc, je fais ça pour être en sécurité. Mais c'est une fausse sécurité. Parce que pensez-y, là, puis c'est illustré. Il y a un monsieur de 80 coquins. Il a eu le COVID. Il était à l'hôpital. Il a réussi à passer au travers. Puis quelques jours après, il est mort dans un accident d'auto. C'est vous que ça nous montre ça? La vie qu'on a, le souffle dans nos narines, c'est Dieu. Hey, qu'on oublie, on est des enfants de Dieu. Notre sécurité n'est pas dans les mesures qu'on prend. Pis notre sécurité, je ne dis pas que dire qu'il faut qu'on agisse en insensé. Pis. Mais c'est Dieu qui a notre vie dans les mains. Puis le plus grand danger en ce moment, là, c'est pas le virus, c'est la peur. On va en parler la semaine prochaine, mais mes amis, cet esprit de peur-là ne vient pas de Dieu. Regardez combien de fois Dieu, Jésus a dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Puis l'esprit que Dieu nous a donné, est-ce qu'il nous remplit de peur? Non, ce n'est pas un esprit de peur, mais son esprit nous remplit d'amour, de foi puis de sagesse. C'est ça? Amour, foi, en tout cas, 2 Timothée chapitre 1. Je termine avec quelque chose pour amener tout ça ensemble ce matin. Le secret pour expérimenter, pour vivre l'humilité que Jésus, le dépouillement que Jésus avait et que moi je t'appelais à vivre, c'est pas d'essayer plus fort. Je pense que si vous venez ici depuis quelque temps, vous savez, depuis quelques années même, vous savez que c'est pas ça la solution. C'est pas d'essayer d'être plus humble. C'est pas d'essayer de porter du fruit. Vous irez parler au premier, là. Vous allez peut-être avoir la foule, là, mais... Est-ce qu'ils essayent très fort de faire des pommes, les pommiers? Non. Un pommier, parce que c'est un arbre, parce que la sève de vie dans ses racines, puis ça va... Il porte du fruit, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin d'essayer... bien, bien fort. C'est juste le résultat d'être attaché. Bien, de la même façon, il ne faut pas essayer... Puis aussi, le côté négatif, je vais essayer de ne pas commettre de péché. Savez-vous, c'est quoi le problème de tout ça? C'est un mauvais... Je pense que c'est un anglicisme de dire ça, mais je vais le dire pareil. C'est un mauvais focus. C'est une concentration au mauvais endroit. C'est regarder à ce que je dois faire, à ce que je ne dois pas faire, au lieu de regarder à celui qui est mon chef et le consommateur de ma foi. Le focus, ça doit être Jésus-Christ. Le focus, ce n'est pas des choses à faire, à ne pas faire, c'est une personne. Si mon attention et mon énergie est sur lui, il y a quelque chose qui se passe, ça ne s'explique pas humainement, mais quand mes pensées sont captives à l'obéissance de Christ, c'est là que Dieu, dans sa grâce, quand vraiment c'est là l'objet de mon attention à travers mes pensées, à travers mes journées comme ça, quand... J'amène toute situation vers le Seigneur, puis que ce que je vis, je l'amène à la lumière de sa parole, à ce que lui pense. C'est comme ça que Dieu, à travers ma vie, va porter du fruit. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais ça se passe. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Ce n'est pas d'essayer plus fort, c'est de demeurer en lui, demeurer. Et ça, c'est une réalité triomphante. Ou si vous voulez, je vais prendre encore là, je vais vous inventer un mot en français, surmontante. Quand j'ai cette réalité du fruit de l'esprit dans ma vie, quand je marche par l'esprit, j'accomplis pas les désirs de la chair, je vais surmonter cette tendance aux œuvres de la chair. Un forcément exclut l'autre. Vous allez voir, Galates 2:16, si vous marchez par l'esprit, la promesse, vous n'allez pas accomplir les œuvres de la chair. Les désirs, les œuvres de la chair, ça ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que l'esprit supplante
L'esprit est plus fort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, mes amis, c'est comme être libéré. Savez-vous, en tant que chrétien, j'ai parlé de la sanctification par les œuvres. Une façon que je l'ai entendu dernièrement, j'ai bien aimé ça. La sanctification par les œuvres, c'est comme être dans la prison du « fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça ». C'est une prison. La liberté, c'est « je veux faire ci, faire ça ». Je veux pas faire ci ou faire ça. On a la liberté en Jésus-Christ parce que Dieu nous donne et produit en nous le vouloir et le faire. J'ai pas besoin d'être interdit de le faire. Je veux même pas le faire. Ça m'intéresse même pas. J'ai cette liberté dans le Seigneur. Dans mon cœur. Je vous lis juste avec... C'est une histoire vraie. Un membre de la gang d'Al Capone à Chicago. Vous connaissez? Al Capone, trafic de toutes sortes de substances, mais surtout l'alcool. Très violent, des meurtriers, puis tout ça. Et cet homme-là faisait partie de la gang avec tout ce qui va avec, le style de vie et tout. Et par la grâce de Dieu, sa femme et sa fille se sont converties au Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, vous savez, le désir de leur cœur et la prière de leur cœur, c'était que lui aussi donne sa vie à Christ. Et donc, elles en parlaient, mais aussi elles priaient là-dessus, au point que l'homme est devenu irrité par ça. Il est devenu non seulement irrité, mais ça l'attisait sa colère. Au point qu'à un moment, lui, puis bon, un de ses problèmes qu'il avait, il y avait la drogue, mais aussi l'alcool. Et donc, une fois que c'était pas mal enivré, sous la colère, vous savez, avec l'alcool, les inhibitions s'en vont, il était tellement sous la colère, il a pris un revolver, puis il dit, je m'en vais tuer ma fille. Puis là, il rentre chez eux, sa femme, elle voyait bien, elle voit arriver avec un revolver dans la maison, elle dit, il y a quelque chose qui marche pas, elle savait que c'est un gangster, mais quand même. Elle essaie de l'empêcher, il pousse sa femme par terre, il s'en va dans la chambre de sa fille, il ouvre la porte, il avait le revolver de la main prêt à tirer, puis au moment où est-ce que ça arrive, elle était en train de prier pour son père, pour son salut. Puis même s'il était sous la stupeur de l'alcool, l'Esprit du Seigneur le saisit à un point où est-ce qu'il s'est rendu compte de la folie totale de ce qu'il était en train de faire. Il a laissé tomber son revolver, il est parti, puis il était allé à l'église, la seule qu'il connaissait, là où sa femme et sa fille allaient. Puis par la providence de Dieu, même si c'était tard le soir, le pasteur était là et il a donné sa vie au Seigneur. Puis il était sauvé, transformé au point, OK, ce gangster, au point où est-ce qu'il a tout laissé la vie de gangster et tout ça, puis même être capable de résister à la tentation. Bon, lui qui avait une gangster d'habitude, là, tu fais de l'argent facile, OK, mais ta conscience est... Elle va pas bien, mais bon. La première job qu'il a eu, honnête, c'était de passer le balai dans les rues. Et là, pendant qu'il faisait ça, les gens de la gang passaient en limousine avec des liasses d'argent de main. Ils disaient, hey, n'importe quand tu peux revenir, t'es bienvenu. Il s'appelait Jacques. Puis il dit, non, c'est bon, merci. Et là, Dieu travaille dans sa vie. La grâce de Dieu était vraiment à l'œuvre dans sa vie. Et là, Dieu a donné un fardeau pour prêcher l'Évangile. Et spécialement pour ceux qui avaient le même genre d'arrière-plan que lui, donc, beaucoup sont en prison. Mais quand vous avez été pendant plusieurs années dans une gang comme celle d'Al Capone, on ne rentre pas dans une prison par la bonne porte comme on veut. Okay? C'est facile de rentrer par une porte, mais par la belle grande porte, déjà en aide, c'est plus difficile. Mais la transformation de sa vie était tellement puissante et évidente. Fait historique, c'est vrai ce que je veux vous dire là. La police de Chicago, qui continuait de le suivre d'ailleurs, puis ont vu qu'il était tellement changé, ils ont pris son dossier criminel, puis ils l'ont jeté dans les poubelles et dit « Vas-y, prêchez dans les prisons. » Résultat, il a conduit des centaines d'âmes au Seigneur, dont 26 sont devenus eux-mêmes des prédicateurs de l'Évangile. C'est arrivé dans les années 60. Ça vous dit c'est quoi? C'est la puissance d'un cœur transformé. Ce gars-là, là, il n'avait pas besoin d'apprendre la chrétienté de choses que faire et ne pas faire. Non, maintenant que tu n'es plus un gangster, un bon petit chrétien, ça fait ci puis ça. Non. Dieu, le Saint-Esprit, est en lui d'une façon
tellement évidente qu'il remplissait, il était dépouillé de cette vie-là de gangster, il était rempli de la vie de Jésus-Christ, boum, ça leur donnait ce qu'on voit là. C'est de ça qu'on a besoin, mes amis. C'est ce même Jésus qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, c'est lui encore qui fait ça en 2020. Ce monsieur-là est mort, ben il n'est pas mort. Son corps, mais il est avec le Seigneur en ce moment. Mais on a le même Dieu qui fait encore la même chose. Pourquoi être pris dans la prison de « fais pas ci, fais pas ça » au lieu d'être dans la liberté de « non, je veux même pas ». Mes amis, qu'on s'approche de Dieu humblement ce matin et qu'on réalise cette chose. Savez-vous c'est quoi qui arrivait à ce monsieur? Il avait suivi un maître pendant très longtemps dans sa vie. Lui-même. Puis là, il a eu un nouveau maître. Jésus-Christ. Puis gloire à Dieu, il a été protégé de tomber sous un faux maître. Parce que voici c'est quoi le problème avec la sanctification par les œuvres. C'est bon, on peut juste avoir un maître dans la vie. Et la sanctification par les œuvres, ça fait de la bonne loi de Dieu. Et la parfaite loi de Dieu, ça fait de la loi de notre maître. Aussi bonne soit-elle, elle est un très mauvais maître. Qui nous accuse, qui nous... Parce que c'est quoi que la loi fait? Elle nous montre tout ce qu'on fait de pas correct. Elle nous montre comment on tombe loin du standard de Dieu, n'est-ce pas? La bonne loi de Dieu, c'est ce qu'elle fait, parce qu'elle nous conduit à Christ. Et c'est ça toute l'idée. Et ce monsieur-là, il suivait un maître, c'est ça qui a changé. Mes amis, on ne veut pas sceller notre destinée à suivre le mauvais maître en tant que chrétien, faire de la loi notre maître. Puis on n'est pas des antinomiens. On croit que la loi de Dieu est bonne, mais on croit à son but, elle nous conduit à Christ. La loi, à toutes les fois qu'on l'ouvre, puis qu'on voit le caractère parfait de Dieu dedans, il faut que ça nous amène au pied de la croix, à Jésus-Christ. C'est là qu'est la liberté. La loi va nous dire « fais pas ci, fais pas ça ». Mais Christ nous donne le pouvoir, la capacité de même pas vouloir le faire. Ça, c'est du surnaturel. C'est pas nous. C'est Christ qui vit en nous. Et si vous êtes ici, puis la seule chose que vous connaissez de la vie chrétienne, c'est ça, vous passez à côté de Jésus-Christ. Vous passez à côté de l'essentiel. C'est la vie chrétienne. Et donc, on va prier maintenant, puis... qu'on fasse monter à Dieu ce désir. Dieu, je te veux toi, toi seul, pour mon divin maître. Et si vous êtes ici, vous n'avez pas encore Jésus comme votre sauveur, ce n'est pas la loi qui va vous sauver, ce n'est pas d'être une bonne personne, mais c'est Jésus-Christ et lui seul. C'est lui qui a versé son sang. C'est en lui que doit être votre confiance pour le salut de votre âme. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné. Ah Seigneur, on a... vu des passages qui sont sobres ce matin, on ne veut pas sceller notre destinée dans le mauvais chemin. Que ce soit pour les gens dont l'âme n'est pas encore rachetée par Jésus-Christ, par son sang précieux. On ne veut pas les voir perdus. On ne veut pas les voir condamnés à l'éternité en enfer. Seigneur, c'est une réalité de très claire dans ta parole. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Si quelqu'un ici est encore sous cette colère, qui voit que la provision est là, la colère de Dieu est tombée sur Christ afin que cette personne ne la reçoive pas. Si quelqu'un est ici sans Jésus-Christ, on te prie Seigneur qu'aujourd'hui, elle voit la croix, qu'elle invoque ta grâce et dans la simplicité de la foi se confier dans l'œuvre parfaite de Christ. Ah, et pour nous, tes enfants, qu'on arrête de se mettre inutilement et en insensé sous le joug de la loi, sous le joug de la performance. Ah, mais qu'on se mette sous ton joug qui est doux, qui est léger, et qu'on voit comment ta bonne loi nous rappelle comment on n'est pas capable, on n'est pas à la hauteur, mais que c'est un intermédiaire pour nous conduire à Christ, qui est si précieux, qui est si bon, qui est si doux à notre âme lorsque on comprend la grandeur de la croix, la vie
triomphante de la résurrection. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever.